France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, dans les deux cas sous la présidence de François Hollande. Il est aujourd'hui avocat. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bernard Cazeneuve, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Tout à l'heure à Paris, mais aussi en France. À Paris, il y aura un rassemblement contre l'antisémitisme regroupant tous les partis politique, sauf le Rassemblement National qui n'a pas été invité et a annoncé qu'il ferait un hommage de son côté. Le Premier ministre et des membres du gouvernement seront là, François Hollande et vous-même y serez. Première question, Bernard Cazeneuve, comment expliquez-vous la bouffée d'antisémitisme qui se propage en ce moment en France? Les mots, les tags et samedi l'agression contre Alain Finkielkraut, que se passe-t-il ici pour qu'on en soit là?
D'abord, je suis comme beaucoup de Français qui sont d'authentiques républicains extrêmement choqués par les événements qui se sont succédés au cours des dernières semaines et qu'on imaginait impossible dans un pays qui a connu la Shoah, la déportation et qui sait que l'histoire est tragique. Des croix gammées posées sur des portraits de Simone Veil, les arbres en hommage d'Ilan Halimi sciés, les propos qui ont été tenus d'une extrême violence à l'encontre d'Alain Finkielkraut, mais aussi, comme le rappelle Delphine Horviller dans sa très belle interview dans Libération, Ingrid Levavasseur, à laquelle on demande d'enlever son gilet jaune en lui disant « celle juive enlève ton gilet jaune ». Donc il y a des phénomènes extrêmement graves qui se produisent dans ce pays. Et lorsque l'on veut matérialiser sa haine, y compris à l'égard de personnes qui ne sont pas de confession juive, c'est l'antisémitisme que l'on convoque, comme si l'antisémitisme était devenu aujourd'hui le vecteur de toutes les haines. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là d'abord parce que, année après année, dans une indifférence, une absence de conscience de ce qu'est la République dans ses fondements, nous l'avons vu s'abîmer, nous l'avons vu se découdre, et nous avons vu toutes les digues qui permettaient de vivre ensemble et qui nous permettaient de faire société tomber peu à peu. Et la numérisation de la société, dont j'ai pu constater notamment à l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur, qu'elle conduisait à la diffusion de toutes les insultes, de toutes les invectives sous pseudonyme ou dans l'anonymat, a désinhibé et a permis aujourd'hui à l'insulte que l'on proférait dans l'anonymat d'être proférée désormais dans la rue à visage découvert, comme on l'a vu à l'occasion des dernières manifestations. Et la parole anonyme devient désormais une parole assumée, et les paroles antisémites conduisent aux actes antisémites qui ne sont que le prolégomène d'autres formes d'actes violents qui s'exprimeront demain contre les musulmans, contre les catholiques, contre des Français en raison de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent.
Le monde virtuel et le monde réel est devenu aussi violent que le monde virtuel. C'est sans doute ce qui a changé et ce que vous soulignez ce matin. Certains députés, Emmanuel Macron notamment aussi, font un parallèle avec les années 20 et les années 30. Est-ce que vous feriez cette comparaison historique-là où elle vous semble mauvaise?
Il y a un phénomène qui me préoccupe beaucoup, c'est que la montée de l'antisémitisme va de pair avec la montée de l'antiparlementarisme et une remise en cause des élites qui ont leur part de responsabilité aussi dans le phénomène qui se produit aujourd'hui. Parce qu'à force de théoriser la transgression, la disruption, la rupture sur tous les sujets, lorsqu'on est en situation de responsabilité politique, on finit par créer les conditions qu'elles se produisent dans la rue, dans l'abandon de toutes les valeurs que nous avons en commun. Donc, il y a bien entendu une responsabilité des élites en tant qu'elles n'ont pas été en situation, parce qu'elle n'avait pas nécessairement pris la mesure de la gravité du contexte où nous nous trouvions, de trouver le mot juste qui apaisait dans un contexte où la société était traversée par des contradictions, des confrontations, des antagonismes qui pouvaient fracturer. Donc nous sommes dans ce contexte aujourd'hui où antiparlementarisme, anti-élite, antisémitisme se conjuguent dans un même mouvement. Ça rappelle une période. Mais nous sommes aussi confrontés à d'autres formes d'antisémitisme qui n'existait pas à ce moment-là. Il y a une petite minorité de musulmans qui, dans la radicalisation, vont vers l'antisémitisme et commettent des actes antisémites. Donc il y a une juxtaposition de phénomènes qu'il faut avoir à l'esprit et face auxquels il faut convoquer les principes et les valeurs républicaines avec la plus grande fermeté et la plus grande détermination, comme les républicains ont su le faire, par exemple, au moment de l'avènement de la Troisième République à travers des personnalités comme Clémenceau.
Et ce soir, est-ce qu'il y aura un consensus politique fort, Bernard Cazeneuve, à cette manifestation contre l'antisémitisme? Est-ce que la classe politique parle toujours d'une même voix? Certains ont dénoncé l'instrumentalisation des violences antisémites par le gouvernement, d'autres ont souligné leurs différences idéologiques avec Alain Finkielkraut, mais dénoncé cette agression. Le « mais » est revenu très souvent ces derniers jours. Donc, fissure dans le consensus?
Mais je crois que lorsqu'il y a un tel risque de confrontation et de fracturation, il faut revenir à des choses essentielles et les exprimer avec force et simplicité. D'abord, lorsque tout risque de basculer, l'amour du pays, l'amour de la République doit l'emporter sur toutes d'autres considérations, et notamment sur ce qui relève du champ de la confrontation et du débat politique, pour une raison simple. C'est qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une confrontation, un débat politique serein en démocratie, s'il n'y a pas un profond respect chez tous ceux qui s'apprêtent à s'affronter des valeurs qu'ils ont en commun. Donc, c'est le pays d'abord, c'est la République d'abord. Parce que si ce n'est pas le pays et la République d'abord, alors tout ce qui relève du champ de la confrontation démocratique, dans un pays où le débat a toujours joué un rôle fondamental, n'est plus possible. Nous n'aurons plus que le chaos des institutions, la confrontation et la haine. Or, moi, je suis d'abord républicain et je souhaite que, dans un contexte particulier, chaque mot soit choisi et que chacun fasse œuvre de responsabilité pour que le consensus républicain soit renforcé. Donc, ce soir, nous allons faire République, tous ensemble, par-delà ce qui peut nous différencier en termes d'opinion politique, en termes de positionnement par rapport à l'actuelle politique gouvernementale, parce que il y a des moments où il faut être capable de s'élever au-dessus d'un certain nombre de contingences pour dire que nous sommes ensemble.
Le fait qu'Emmanuel Macron ait choisi de réserver sa parole demain soir au dîner du CRIF et de ne pas être ce soir à vos côtés au rassemblement Place de la République, est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous comprenez son choix?
Je ne vais pas commenter les choix du président de la République. Dans un moment grave comme celui auquel nous sommes confrontés, il lui appartient de choisir les modalités de sa parole. Mais ce que je veux lui dire, parce que je pense que beaucoup de Français le ressentent ainsi, c'est que nous avons besoin, dans des circonstances comme celles auxquelles nous sommes confrontés, de la parole du président de la République. Il est le garant de l'unité, de l'indivisibilité de la nation. Et c'est à la nation dans son ensemble qu'il doit s'adresser pour dire ce qui la rassemble, ce qui la cimente et ce qui la fonde. Et il faut aussi retrouver, c'est un des éléments qui explique la montée de l'antisémitisme, il faut retrouver les faits de l'histoire dans toute leur rigueur et toute leur justesse. Il faut être capable de revisiter ce qu'ont été les événements de l'histoire qui ont pu conduire au pire. Et parce que une société dans laquelle il n'y a plus de pensée historique, dans laquelle les faits de l'histoire s'effacent, c'est une société dans laquelle la transmission n'est plus possible.
Et on en est là, Bernard Cazeneuve.
Et justement,
vous parlez de l'amour de la République.
Mais c'est parce qu'on en est là que je le dis avec cette gravité.
N'est-ce pas trop faible de vouloir réhabiliter et la République et la raison en ces temps si tourmentés?
Mais c'est une nécessité absolue, c'est un combat urgent, et tous ceux qui ont la passion de la République, qui ont la passion de la liberté, qui ont au cœur la tolérance et l'altérité, c'est-à-dire cette capacité à se mettre à la place d'autrui. Et c'est précisément parce que l'altérité conduit à se mettre à la place d'autrui qu'à un moment donné, on n'arrive plus à trouver en soi les mauvais instincts de la haine pour adresser à l'autre ce qu'on n'aimerait pas adresser à son prochain s'il était de sa famille ou qu'on n'aimerait pas adresser à soi-même. C'est cela qu'il faut retrouver. C'est cet esprit d'altérité, c'est cet esprit éminemment républicain et retrouver aussi le sens de l'histoire. J'ai été frappé que pendant la dernière campagne présidentielle, l'histoire était aussi absente. On avait l'impression d'un moment ahistorique. plus personne n'indiquait dans quelle filiation il s'inscrivait, dans quel courant de pensée il tentait de mettre ses pas. Et si j'ai été critique parfois à l'égard de cette idée qu'un monde nouveau allait se substituer à l'ancien, c'est parce que précisément je ne croyais pas qu'il était bon de couper les fils de l'histoire. On s'inscrit toujours dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Et lorsque l'on ne s'inscrit pas dans les pas de ceux qui nous sont précédés, ce qui n'exclut pas d'ailleurs des dépassements, alors on oublie les faits de l'histoire et la transmission devient plus difficile.
Bernard Cazeneuve, encore une question sur ce sujet. Certains députés veulent désormais interdire l'antisionisme au nom du fait qu'il est parfois le visage, l'un des visages de l'antisémitisme. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que lorsque nous sommes sur des combats aussi essentiels, il n'est pas interdit de les mener en convoquant la sagesse. Et il n'est pas nécessaire pour condamner des délits qui doivent l'être avec la plus grande fermeté, l'antisémitisme est un délit, de donner le sentiment qu'on est prêt à instaurer le délit d'opinion. Et lorsque l'on a en face de nous des antisionistes, il faut leur demander ce qu'est leur antisionisme. Là aussi, Delphine Orvelleur en parle très bien dans l'interview à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit de la condamnation des frontières actuelles d'Israël ? Est-ce qu'il s'agit de la condamnation de la politique du gouvernement israélien ? Je la condamne. De quoi s'agit-il exactement ?
Ou de la négation même de l'existence d'un État d'Israël.
Et dès que l'on sent, parce que c'est parfois le cas, que derrière l'antisionisme se cache un antisémitisme assumé. Et je vous rappelle qu'en juillet 2014, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, il y a eu une polémique au moment où j'ai interdit des manifestations contre la politique d'Israël, pendant lesquelles on voyait brandir des écriteaux sur lesquels il était écrit « mort aux Juifs ». C'est précisément parce que je savais bien que derrière un certain nombre de postures se cachaient des instincts qui devaient être combattus.
L'agression d'Alain Finkielkraut a eu lieu en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi. Quelle relation faites-vous entre le mouvement des Gilets jaunes et ce regain d'antisémitisme ? Y voyez-vous comme quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy qui dit que l'antisémitisme est au cœur du mouvement des Gilets jaunes ?
Je pense que les Gilets jaunes doivent eux-mêmes prendre des positions très claires sur ce sujet. Et on ne peut pas appeler à la lutte contre l'antisémitisme, demander à chacun de faire son examen de conscience, car la lutte contre l'antisémitisme passe d'abord par l'examen, par chacun, de ce que sont les sentiments qui le traversent, et par l'interrogation par chacun de sa conscience, et ne pas demander à ceux qui manifestent tous les samedis dans Paris de ne pas se livrer à cet exercice. Deuxièmement, je ne peux pas m'empêcher de constater que nous sommes dans une période où il y a de l'antisémitisme, où il y a de l'antiparlementarisme, où il y a un discours sur les élites qui, dans un même mouvement, remet en cause bien des choses fondamentales dans la République. Je veux rappeler que si des parlementaires ont des indemnités, c'est parce qu'à un moment de notre histoire, pour mettre fin au suffrage censitaire, on a considéré qu'il était nécessaire que des élus aient des indemnités pour faire en sorte que ne puissent pas être élus seulement ceux qui pouvaient vivre de leur rente. C'est donc une grande conquête de la République que le fait d'avoir un Parlement avec des élus indemnisés qui font la loi et qui expriment ce qu'est la souveraineté nationale. Et là aussi, il faut revisiter ce qu'est l'histoire et ne pas chercher une issue à cette crise dans des réformes institutionnelles qui abaisseraient le Parlement, qui abaisserait les institutions, parce que ce n'est pas par le populisme qu'on sortira du populisme.
Bernard Cazeneuve, tous les samedis depuis 3 mois, il y a des manifestations en France. Pendant tout un temps, elles n'étaient pas déclarées en préfecture. Certaines s'accompagnent semaine après semaine de violences. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-il si difficile de rétablir l'ordre républicain, l'ordre public ?
Mais d'abord, je veux rendre hommage à ceux qui sont en charge de l'ordre républicain, les policiers et les préfets qui, samedi après samedi, alors que les tensions sont extrêmes, font un travail absolument remarquable en étant exposés à bien des violences face auxquelles ils demeurent ardemment républicains, maîtrisant leurs gestes, étant capables d'incarner par l'uniforme qu'ils portent la République. Même si il peut y avoir parfois des manquements, des difficultés qui généralement conduisent l'inspection générale de la police nationale à être saisie, je veux saluer la manière dont les policiers accomplissent leur mission. Mais nous sommes face à des manifestations d'un type nouveau. Elles ne sont pas toujours déclarées. Elles n'empruntent pas les itinéraires prévus. Et il y a parmi les manifestants des gens qui quittent les cortèges pour aller dans les rues, au hasard casser des bâtiments publics, s'en prendre à du mobilier urbain, s'en prendre à des commerces, suscitant d'ailleurs énormément de peur.
Alors on fait quoi?
Et parfois d'effroi.
Est-ce qu'il faut interdire ces manifestations, Bernard Cazeneuve?
Je pense que ce serait une faute que d'interdire ces manifestations dans un pays où précisément nous nous battons pour que la République continue à incarner la liberté. Et je pense que le gouvernement a raison de ne pas les interdire. Mais il a raison en même temps d'être extrêmement ferme à l'égard de ceux qui, dans ces manifestations, sont à l'origine de violences inacceptables. D'ailleurs, on le voit, la violence est verbale. La violence fait renaître les mauvais instincts. La violence, c'est également physique. Cette violence doit cesser parce qu'elle est le contraire de ce qu'est la République. Elle est le contraire des valeurs qui nous unissent les uns aux autres. Et elle est, par ailleurs, un ferment de mise en cause des institutions qui est bien entendu de nature à fragiliser gravement ce qui fait le vivre ensemble dans notre pays.
Très rapidement, parce que nous avons de nombreuses questions à vous poser. D'un mot, la loi anti-casseurs qui est en cours d'adoption, vous y êtes favorable ?
Je ne suis pas favorable à cette loi.
Ah, vous n'y êtes pas favorable.
Je n'y suis pas favorable. Il y avait dans l'arsenal législatif actuel tout ce qui permettait de régler ces problèmes. Par ailleurs, j'en ai d'ailleurs été étonné, compte tenu des propos qui avaient été tenus pendant la campagne électorale, on n'a pas sorti de l'état d'urgence. On a inscrit l'état d'urgence dans le droit commun. On m'avait reproché de venir régulièrement devant le Parlement lorsque l'état d'urgence avait été déclaré pour des raisons qui tenaient aux circonstances particulières du terrorisme qui nous frappait. Et je venais devant le Parlement parce que précisément j'estimais que le Parlement devait pouvoir contrôler tout ça. Désormais, on a fait rentrer les dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun, en dépit de tout ce qu'on nous avait expliqué, et on va plus loin encore avec cette loi, alors qu'il y a dans les dispositifs législatifs existants de quoi maintenir l'ordre.
Une question au standard de France Inter. Question pour vous, Bernard Cazeneuve. Je salue Clara, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute, Clara.
Bonjour. Du coup, moi, j'ai 26 ans, je suis profondément de gauche. Du coup, j'ai bien noté que M. Cazeneuve, il vous laisse rendre utile. Et du coup, dans mon souvenir, il a quand même participé au gouvernement de François Hollande, où il a cautionné la loi travail, il a participé à la loi asile immigration de 2015. Donc en fait, il a participé au creusement des inégalités entre les populations, qui forcément ont besoin d'un bouc émissaire. Donc maintenant, les boucs émissaires, c'est qui? C'est les migrants, c'est la communauté LGBT, c'est des juifs. Et donc maintenant, il veut se rendre utile, M. Cazeneuve, mais auprès de qui? Quand on est de gauche, est-ce qu'on va aller voir Mélenchon? Personnellement, j'en ai pas très envie. Est-ce qu'on va aller voir Hamon avec son revenu universel que personne ne soutient? Est-ce qu'on va aller voir Place Publique avec Glucksmann? Où est-ce que vous vous placez, M. Cazeneuve? Et où est-ce que nous, on peut se placer, jeunes de gauche, qui ont envie de militer contre les inégalités entre les populations?
Bien compris, Clara. Merci pour cette intervention. Bernard Cazeneuve vous répond.
Cette question, elle est intéressante parce qu'elle montre l'un des maux auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire le décalage qui existe entre les faits, la réalité et la perception. Par exemple, cette auditrice qui a l'air habitée par des convictions très solides...
Et une certaine frustration.
Et une certaine attente, en tous les cas.
Oui, elle me pose, désorientée.
On pose des questions sur des sujets que j'ai eu à connaître et sur lesquels les choses qui sont dites ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, sur l'immigration, je veux rappeler à l'auditrice que lorsqu'il y a eu 12 000 personnes à Calais, dans la boue de Calais, nous avons ouvert 600 centres d'accueil et d'orientation. Nous avons multiplié par deux le nombre de places en centres d'accueil et d'orientation. Et la mise à l'abri de ces personnes s'est faite sans l'intervention des forces de l'ordre, avec d'ailleurs le concours des ONG qui étaient présentes sur place, en tous les cas d'un certain nombre d'entre elles. Est-ce que cette politique-là, qui est une politique assez différente de celle qui est menée aujourd'hui, n'était pas une politique de gauche, puisqu'on m'a interpellé sur la question migratoire? Je ne crois pas.
Dites clairement dans l'entretien de l'Obs que vous donnez, et qui est en ligne depuis hier soir, vous dites clairement la politique d'Emmanuel Macron est une politique à droite sans ambiguïté. Pour vous, c'est aussi clair que ça? C'est une politique de droite?
Je cherche ce qui, dans cette politique, la place à gauche. Est-ce que c'est la loi anti-casseurs dont nous avons parlé? Est-ce que c'est ce qui relève du champ de la politique migratoire, qui, après qu'on a expliqué d'ailleurs, au moment où j'évacuais Calais, que ce que je faisais était bien timide par rapport à la grande conscience qu'incarnait à ce moment-là Angela Merkel. Est-ce que c'est une politique de gauche qui est menée sur ce sujet aujourd'hui? Est-ce que le fait de faire 6 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches des Français et de prendre 6 milliards sur les retraités est une politique de gauche? Je pourrais comme ça multiplier les sujets. Si je qualifie cette politique de droite, c'est parce que je cherche dans ce qui est fait, ce qui pourrait éventuellement lui donner une teinture de gauche.
Le dédoublement des classes.
Oui, mais le dédoublement de classe a été rendu possible parce que près de 60 000 postes d'enseignants ont été créés dans le quinquennat précédent, sans lesquels il n'aurait pas été concevable aujourd'hui de procéder au dédoublement des classes. Mais ce que je dis en qualifiant la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une agression à l'égard du gouvernement et de la majorité. Ce n'est pas grave d'être de droite. D'ailleurs, j'ai le sentiment qu'il l'assume assez bien. Mais dès lors que le gouvernement est de droite et qu'il y a un pôle assez significatif d'extrême droite qui se constitue et qu'il y a à l'extrême gauche une organisation qui stérilise tout, je me dis qu'il serait quand même pas mauvais pour la démocratie qu'il y ait une force de gauche qui se constituent et qui permettent à notre pays d'avoir un débat démocratique plus équilibré qu'il ne l'est.
Et pourquoi vous ne l'apportez pas, cette voix-là ?
Mais je suis devant vous aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être devenu totalement à faune, mais je pense que beaucoup de ceux qui, à gauche, sont engagés ou sont électeurs, aspirent à ce qu'il y ait à la fois des consciences et du renouvellement. Et moi, je ne veux pas être de ceux qui, tous les jours, s'expriment sur tous les sujets, expliquant qu'ils sont indispensables. Je veux
mais parmi l'ensemble. Vous êtes là.
Je suis là, comme il y a aujourd'hui encore dans ce pays, fort heureusement, des milliers de militants de gauche qui sont là et des centaines de milliers qui demain pourront de nouveau incarner
juste
une espérance.
Parti de gauche, en tout
et,
cas.
Et donc
social-démocrate.
Et bien entendu, social-démocrate, un parti de gauche qui puisse représenter une alternative, parce que moi je ne souhaite pas que la France soit condamnée au dialogue entre la droite et l'extrême droite.
C'est toujours le Parti socialiste. Ce parti-là ?
Il faudra bien entendu qu'il y ait des mutations, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des rassemblements. Mais mon état d'esprit est très simple, puisque je vois des tas d'articles écrits depuis que j'ai eu l'idée de me rendre à une soirée conviviale chez les sénateurs socialistes. Moi, je suis désireux d'aider ma famille à laquelle j'ai toujours appartenu, à retrouver des couleurs, à représenter une alternative, à représenter une espérance. Je crois à la force de l'espérance et je suis inquiet de voir la situation de mon pays. Je suis inquiet de voir la situation dans laquelle se trouve la gauche. Et je pense qu'une espérance est possible. Et plutôt que d'enfermer les électeurs de la gauche dans une impasse en les mettant chaque jour davantage en colère avec des connivences de plus en plus douteuses, je pense au parti de Jean-Luc Mélenchon, moi je souhaite les mettre sur un chemin d'espérance. Pas moi tout seul, je suis un parmi tant d'autres et je n'entends pas être davantage que cela. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un militant dans un contexte historique particulier que vous devez vous taire sous prétexte qu'à chaque fois que vous parlez, on vous prête des ambitions que vous n'avez pas.
Une question, Bernard Cazeneuve, de Guy, qui vous demande la chose suivante. Quelle aurait été votre position en tant que ministre de l'Intérieur quant au retour des djihadistes en France ? 150 selon une estimation qui ne peuvent plus être détenus par les Kurdes en Syrie et qui donc reviendront peut-être.
Mais nous avons eu l'occasion de nous exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet lorsque nous étions au gouvernement. Et ce que s'apprête à faire le gouvernement actuel, c'est et ce qu'il faut faire. Et on ne peut pas ne pas accueillir sur le territoire national des nationaux, parce que c'est tout simplement le droit international. Mais il faut mettre en place des dispositifs qui permettent, au moment de leur retour, de les mettre immédiatement hors d'état de nuire en procédant à leur incarcération, à leur jugement. C'est cela qu'il faut faire et surtout être très vigilant pour que nul ne puisse revenir en échappant à la justice, parce que tous n'ont pas été arrêtés.
La piste du référendum à choix multiples pour sortir de la crise à l'issue du grand débat national vous semble-t-elle une bonne idée ? Sur quoi devrait porter ce référendum et doit-il se faire le jour des européennes ?
Je pense que l'on n'échappera pas à la question sociale. C'est ça surtout que je veux dire. On ne sortira pas de ce grand débat sans une conférence sociale à l'occasion de laquelle la question fiscale, la question des inégalités, la question du pouvoir d'achat, la question de la fracture territoriale sera traitée. Et donc, je réinsiste pour dire que Laurent Berger, qui a tendu une main, qui a fait des propositions constructives, qui sont de nature à créer les conditions à la fois de la relance du dialogue social, de la reconnaissance des corps intermédiaires. Je pense que l'idée d'une république qui puisse fonctionner verticalement sans corps intermédiaire est une très mauvaise idée qui laisse beaucoup de place et trop de place à la violence, et que si nous voulons sortir du grand débat de façon constructive, en consolidant la République française, il faut reconnaître les corps intermédiaires dans leur rôle, et il faut pour cela relancer le dialogue social et traiter de la question sociale, oui, et de celle du pouvoir d'achat.
Vous répondez pas à ma question sur le référendum.
Vous avez bien compris que ce n'est pas pour moi la priorité, oui, que d'aller vers un référendum sur les questions institutionnelles, en diminuant le nombre de parlementaires au moment où il y a un problème de proximité dans la relation entre, oui, les citoyens et les élus, au moment où on a besoin de faire davantage république, et essayons de faire en sorte que la République soit plus forte et plus unie autour d'une ambition de justice sociale, oui, et pour cela, il faut une grande conférence sociale.
Merci Maître Cazeneuve, puisque vous êtes avocat maintenant. Je sais pas le protocole, c'est Maître ou Monsieur le Premier ministre, comme les anciens premiers ministres ont le droit.
Mais écoutez, comme vous préférez.
D'accord, bah j'ai dit les deux en attendant. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin, et je renvoie évidemment à l'entretien que vous avez également donné à l'Obs et qui est en ligne depuis hier soir. 8h47, le carrefour du 7-9.